Vous écoutez
RMC.
Bienvenue, bon réveil, bon dimanche sur RMC, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
C'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'hiver fait son retour en avril, les agriculteurs craignent le pire pour leur production. Soulagement pour l'Ukraine, les États-Unis vont débloquer une enveloppe exceptionnelle de 61 milliards de dollars à Kiev. Et puis la belle saison du Stade Brestois dérange-t-elle la Ligue 1?
Un épisode de froid va s'abattre sur une bonne partie de la France.
Les températures sont 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison selon Météo France. Les nuits les plus froides sont attendues en début de semaine. Des risques de gel sont donc à prévoir, ce qui inquiète les agriculteurs, viticulteurs ou encore arboriculteurs. Ils redoutent de perdre leur production et ont les yeux rivés sur les prévisions météo. Lucas Loubet.
Oui, c'est le cas de Pierre-Jean Laouret dans les Yvelines, par exemple. La température devrait descendre proche des 0 degrés les prochaines nuits. Il craint pour sa production de poires.
J'ai peur. Le problème, c'est que c'est vraiment la roulette russe. Ça passe ou ça casse. Sur quelques heures, on peut perdre la récolte annuelle, comme avec une averse de grêle. Hein.
Avec la chaleur précoce, les fruits se sont développés plus tôt. Un phénomène récurrent avec le réchauffement climatique. Les gelées arrivent donc à un moment encore plus sensible. Thierry Moisy, producteur de pommes en Indre-et-Loire.
2 degrés sous abri, ça peut faire du 0 jusqu'à moins 1, moins 2 dans certains fonds de vallée. On a des fruits formés hein, qui font 5, 6, 7 mm. Si les températures descendent de trop, hein, ils noircissent et ils tombent.
De quoi perdre une partie de sa production. Alors certains se protègent. C'est le cas d'Aurélien Esprit dans la Drôme. Il a mis en place plusieurs systèmes contre le gel.
Il existe des moyens comme des bougies anti-gel qu'on peut disposer à chaque arbre et allumer pour réchauffer l'atmosphère. On peut également mettre en place des tours anti-gel qui sont des tours avec une éolienne, une hélice qui va ramener la chaleur vers le sol.
Mais ça représente un coût important. Aurélien Esprit a dû investir 300 000 euros pour se protéger.
Un reportage de Lucas Laubert.
RMC 8h02, c'était un vote très attendu depuis des mois par l'Ukraine.
Le Congrès américain valide une nouvelle aide exceptionnelle de 61 milliards de dollars après des semaines d'intenses débats. Le président Joe Biden salue une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire. Réaction également de Volodymyr Zelensky sur le réseau social X. Cette aide sauvera des milliers de vies. Cette enveloppe, Ameline Lavjin, l'Ukraine l'attendait donc avec impatience.
311 voix contre 112, des drapeaux ukrainiens face aux huées des républicains. Pour une enveloppe de presque 61 milliards de dollars, un vote voulu par le président Joe Biden qui mettait la pression sur le Congrès, car l'Ukraine est en position défensive depuis des mois, en manque d'effectifs, mais surtout de munitions. Alors grâce à cette aide, les Ukrainiens vont pouvoir se réarmer face à une Russie qui, sans ça, aurait continué de grignoter du terrain, selon Ulrich Buna, analyste géopolitique.
Ça va leur permettre de combler en partie les brèches qu'ils ont sur leur ligne de front, et ça va leur permettre de tenir la ligne en espérant, entre guillemets, des jours meilleurs. Aussi bien en termes de recrutement de nouveaux soldats que de capacité à reprendre l'initiative avec des nouveaux matériels qu'ils seront potentiellement capables de produire eux-mêmes.
Avant de recevoir cette aide, le texte doit d'abord être validé par le Sénat la semaine prochaine, puis terminé sur le bureau de Joe Biden à la Maison-Blanche. La livraison des premiers équipements devrait arriver en Ukraine d'ici 2 à 3 semaines.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également réagi sur X. Je cite, « Les alliés transatlantiques sont unis pour soutenir la liberté et la démocratie ». La météo joue un mauvais tour à Donald Trump. Son meeting de campagne a dû être reporté hier en Caroline du Nord en raison d'une tempête. Il s'agissait de son premier grand événement depuis le début de son procès au pénal à New York.
On en vient maintenant à cette volte-face du gouvernement sur la traduction des épreuves du brevet en langue régionale.
Ces épreuves seront finalement traduites cette année en langue régionale pour les collégiens bilingues concernés, annonce de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Il s'agit donc d'un sacré revirement de situation. Inès Zegloul.
Et oui, puisqu'il y a à peine 5 mois, un courrier était envoyé au rectorat. Fini les énoncés d'épreuves en langue régionale, acquis pourtant vieux d'une 20aine d'années.
Retraduire en breton l'énoncé français avant de pouvoir commencer à composer.
Impensable hein, pour Eddy Penven, président de Duyes Braise, l'une de ces associations de parents d'élèves vent debout contre la décision de l'exécutif.
L'ensemble des cours sont faits en langue bretonne. Des Pythagore, des Thalès, des dates historiques, etc. qui sont formulés d'une certaine manière manière en langue bretonne qui n'a rien à voir avec le français.
Alors lorsque cette semaine est contre toute attente, le ministère rétropédale.
Un soulagement pour les familles, un soulagement pour les enfants, mais néanmoins, on a bien lu entre les lignes que tout était encore remis en question pour l'année suivante. Donc on reste vigilant.
Car les collégiens ne sont pas à l'abri d'un énième revirement de situation. L'avenir des langues régionales au brevet fera l'année prochaine l'objet de nouvelles concertations.
Et on va en parler d'ici 5 minutes, 8h10 avec notre invité Peyo Jorajouri, président de la Fédération des Ikastolas CSK. Ce sont les écoles basques. Si vous aussi vous voulez défendre votre langue régionale, appelez tout de suite le 3216.
Plus de télétravail accordé aux fonctionnaires pendant les JO. Les agents publics pourront dépasser le plafond habituel de 3 jours de télétravail par semaine, 10 jours de plus cette année. Les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres se donnent rendez-vous aujourd'hui dans la Ville Rose. Une mobilisation est organisée cet après-midi à 14h pour faire capoter ce projet, un projet jugé injuste, inutile et écocidaire.
RMC 8h05, est-ce que le Stade Brestois dérange ?
Les Bretons sont la grande surprise cette saison de la Ligue 1, deuxième. Ils affrontent cet après-midi le troisième Monaco, un match pour la Ligue des Champions, et leur belle saison pourrait agacer certains. La défaite à Lyon avec des décisions arbitrales contestables le week-end dernier avait suscité beaucoup de colère, Xavier Grimaud.
Oui, avec notamment cette phrase du directeur sportif Grégory Lorenzi, on sait très bien que Brest dérange. Une semaine plus tard, à froid, l'entraîneur Éric Roy calme le jeu.
Je ne remettrai jamais en doute l'honnêteté intellectuelle des arbitres. Donc la théorie du complot, bien sûr que je n'y pense pas. Je suis conscient aussi que quelque part, c'est mieux d'avoir Lyon, c'est mieux d'avoir Marseille avec un grand stade, d'avoir Brest. Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est pas le truc le plus sexy peut-être pour eux, quoi.
Éric Roy ne vise donc pas les arbitres, mais plutôt
peut-être l'environnement, l'institution, Fédération française de football, la Ligue professionnelle de football. On essaiera d'être sexy sur le terrain. À défaut d'être sexy pour les gens qui font le foot français.
Mais si les Brestois se victimisent, ils peuvent compter sur le soutien des entraîneurs de Ligue 1, notamment Pierre Sage, le coach lyonnais particulièrement élogieux.
Au contraire, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de sympathisants et je fais partie de ceux-ci. J'espère que cette équipe va se qualifier en Champions League. Elle rend honneur à ce que devrait être ce sport selon moi, c'est-à-dire quelque chose qui est spectaculaire, quelque chose où il y a des buts. S'il y a une équipe à aller voir jouer, je vous conseillerais d'aller voir Brest.
Et une victoire face à Monaco aujourd'hui serait encore une preuve supplémentaire que Brest est à la place qu'il mérite.
Un coup d'envoi de cette rencontre à 17h05 à suivre sur RMC. Les 100 euros hier se sont imposés 1-0 face à Clermont. Le derby breton entre Nantes et Rennes a tourné à l'avantage du Stade Rennais. Victoire 3-0. Classement Lens est 6e ce matin et compte 4 points d'avance sur Rennes 7e. Clermont est lanterne rouge. Nantes est 14e. Puis place au tournoi des 6 nations féminins. 4e journée au programme. L'équipe de France 2e affronte le dernier, le Pays de Galles, à 16h15 à Cardiff. Les Anglaises se sont imposées hier 88-10 face à l'Irlande. Elles confortent leur place de leader.
Et puis les cerfs-volants envahissent pendant 7 jours le ciel de Berck-sur-Mer.
Les rencontres internationales du cerf-volant ont commencé hier. Des centaines de cerf-volistes venus des quatre coins du monde sont rassemblés pour partager leur passion et pour certains disputer une compétition sportive. Et chaque année, les visiteurs sont au rendez-vous, l'occasion aussi de rencontrer de véritables passionnés comme Jean-Paul Morin qui participe à l'événement pour la 22e fois. Chloé Lagadou l'a rencontré hier.
Face au vent, les yeux plissés derrière ses lunettes de soleil, Jean-Paul surveille ses cerfs-volants flotter dans les airs, un vaisseau spatial de 8 mètres et une boussole.
Alors là, les conditions sont un peu extrêmes. Le vent, il souffle vraiment très très fort.
Mais pas de quoi arrêter ce passionné de la première heure.
J'en ai toujours fait, petit, on en faisait en papier. Et maintenant, j'ai des jouets pour les grands. C'est que des cerfs-volants de science-fiction, mais parce que j'adore ça. J'ai des Stormtroopers, j'ai Yoda.
Et tous ces personnages, Jean-Paul les confectionne lui-même de A à Z depuis 30 ans. Dans son garage transformé en atelier.
C'est très très artisanal, c'est-à-dire du dessin en passant par la maquette, en passant par la découpe, la couture, je fais tout moi-même.
Temps de réalisation entre 7 et 8 mois pour une pièce et certains de ces cerfs-volants mesurent jusqu'à 22 mètres de long. Mais ce qui plaît le plus à Jean-Paul,
c'est ce côté, quelque part, l'âme d'enfant qui reste, c'est l'imaginaire. Ça nous fait voyager.
Et ce passionné n'a pas fini de faire travailler son imagination. Il réfléchit déjà à une nouvelle création qui rejoindra sa collection dans quelques mois.
Un reportage de Chloé Lagadou. Cette 37e édition se déroule jusqu'au 28 avril à Berck-sur-Mer.
Du vent dans les voiles.
Oh.
Oh oui, oui, oui. Bon, écoutez, on entend de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là, ça marche pas. De toute façon, vous êtes sur RMC et puis voilà. Merci Clément, on se retrouve tout à l'heure à 9h, il est 8h09.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Et dans le 10 minutes chrono, encore un beau cadeau à l'occasion du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, Peggy.
Ah oui, on vous offre votre kit d'équipement Bosch Car Service avec un set de vissage 26 pièces, une pompe à air comprimée sans fil, un aspirateur eau et poussière, bref, tout ça pour une valeur de 500 euros pour bien prendre soin de votre voiture.
Vous mettez ça dans le coffre et comme ça, vous il ne peut rien vous arriver. Le kit d'équipement Bosch Car Service a gagné au 32-16 la touche 4 ou bien le mot matin par SMS au 732-16, matin par SMS au 732-16. 10 minutes pour vous inscrire, le gagnant ou la gagnante avant 8h30.
À suivre dans la matinale week-end.
C'est une mauvaise nouvelle. Le Fort Boyard est en danger, menacé de disparition. Ce n'est pas une blague si aucun travaux n'est entrepris. Un appel aux dons est lancé. La présidente du département de Charente-Maritime, Sylvie Marcilly, sera notre invitée à 8h40.
À 8h20, la Story Sport avec vous, Julien Taxis. Bonjour, de quoi parle-t-on ?
Bonjour, on va parler de natation et précisément d'un gros scandale de dopage à quelques mois des Jeux. Plus d'une vingtaine de nageurs chinois contrôlés positifs en 2021. Aucun d'entre eux n'a été épinglé jusque-là.
Et d'abord, le Corse, l'Occitan, le Breton, l'Alsacien, le Créole, le Basque. Est-ce qu'on en fait assez pour le rayonnement, pour l'enseignement de nos langues régionales ? Peyo Jorajouria, président de la CHK Fédération, 39 écoles en langue basque, est notre invité dans 2 minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Bon dimanche à l'écoute d'RMC, il est 8h13.
Le témoin RMC.
Et notre témoin RMC ce matin, c'est Peyo Jorajouria, président de CHK Fédération.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que Peggy a bien prononcé ? Parce qu'on essaye depuis ce matin de mettre en valeur nos langues régionales. Est-ce que son basque est à peu près correct ?
Ça ira.
Oui. J'ai encore des efforts à faire, oui.
De l'indulgence avec nous, c'est gentil. Vous représentez 39 écoles en langue basque de la maternelle au lycée, un peu plus de 4000 élèves en tout. D'ailleurs, première question, est-ce que le nombre de vos élèves est en augmentation ? Est-ce qu'au Pays Basque, de plus en plus, les parents veulent que leurs enfants apprennent la langue ?
Oui, de plus en plus, que ce soit dans nos écoles. Donc nous, on augmente nos chiffres chaque année et on ouvre également de nouvelles écoles assez régulièrement. Là, dernièrement, on a dû ouvrir un nouveau collège parce qu'on n'avait pas de place pour tous nos collégiens. Et au-delà de notre fédération, c'est également dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé catholique que les chiffres augmentent. Actuellement, au Pays Basque, en primaire, 40% des élèves sont en filière bilingue ou immersive.
40%, c'est considérable. Et si on parle des écoles en langue régionale ce matin, c'est parce qu'on a eu ce week-end, en début de week-end, un nouvel exemple d'une certaine forme de menace qui pèse sur vos langues. Une marche arrière de la ministre de l'Éducation nationale sur la traduction des sujets du brevet, le DNB en langue régionale. Jusqu'à présent, les copies sont à rendre en langue régionale si on le souhaite, les intitulés, les énoncés des sujets aussi. Mais cette année, ça devait être plutôt en français avant que la ministre fasse marche arrière. Donc, bonne nouvelle à l'arrivée, mais c'est une nouvelle preuve que c'est un combat de tous les jours.
Oui, le courrier de la ministre est une bonne nouvelle, hein, dans le sens où les élèves qui rédigent les épreuves en langue régionale auront les questions en langue régionale, comme c'était le cas jusqu'à présent, et qu'il n'y a pas de recul là-dessus. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi que la ministre prenne les choses directement en main et que du coup elle les enlève de celles de l'administration. Mais on attend également la ministre sur des sujets, sur la question des examens, sur des sujets beaucoup plus importants que les consignes du brevet.
Lesquelles ?
Actuellement... Mais sur le brevet des collèges, nos élèves des ICASTOLA donc peuvent passer toutes les épreuves en langue régionale. Par contre, les élèves des filières publiques bilingues ou privées catholiques ont interdiction de rédiger l'épreuve de sciences en langue régionale. Mmh. Et on a également beaucoup d'attentes sur la question du baccalauréat. Il y a quelques années, nos élèves pouvaient passer plusieurs épreuves du baccalauréat en langue régionale. Et depuis 2018, et la réforme, ça avait été annulé. On avait réussi à rétablir en 2021 une circulaire qui autorise de nouveau nos élèves à passer des épreuves du baccalauréat en langue régionale, mais on attend l'arbitrage de la ministre pour savoir quelles épreuves.
C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre ces allers-retours sans cesse, alors qu'en plus, une loi depuis 2021 protège l'existence de ces langues. C'est la loi Molac. C'est aussi inscrit dans la Constitution depuis 2008. On parle là de langues qui existaient avant le français. Bien sûr que la langue de la République une et indivisible est désormais le français. Ça n'empêche pas l'existence de ces langues régionales. Julien nous écrit sur l'appli RMC qu'il y a aussi ce qu'on appelle des calendretas du côté de Montpellier. C'est l'équivalent de vos écoles en langue basque, Peio Joajuria. Comment on y enseigne ? Est-ce que le français est prioritaire dans vos écoles ou c'est plutôt le basque ?
Ah, nous, c'est des filières immersives. Donc, dans le réseau Echecolim, nous scolarisons au total 15 000 élèves sur 6 régions différentes, sur 6 langues différentes. Et notre particularité, c'est que l'enseignement est entièrement en langue régionale. On commence en maternelle uniquement en langue régionale, avec une introduction assez tardive du français. Et on rattrape le niveau de français, le nombre d'heures d'enseignement de français, pour la fin du CM2. Donc on arrive à la fin du CM2 avec un niveau de langue équivalent pour les élèves. Et ensuite, au collège et lycée, on continue en langue régionale et on arrive à avoir des locuteurs complets dans les deux langues qui maîtrisent les deux langues de manière identique.
Ce n'est pas au détriment de l'une ou de l'autre. Eric nous rejoint au 32-16 pour mettre à l'honneur le créole depuis La Réunion. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous êtes vous-même réunionnais, vous parlez créole ?
Je parle créole, mais je ne suis pas réunionnais.
Bien.
Je suis réunionnais parce que je vis à La Réunion, mais je ne suis pas d'origine réunionnaise.
Est-ce qu'on en fait assez, Eric, pour défendre ce patrimoine, pour faire en sorte qu'il ne soit pas menacé ici ou là ?
Alors, nous, à La Réunion, on est bien spécifique parce que la population parle quasiment tous créole. Mmh. Et les jeunes parlent dans la cour créole, à l'école créole. Dès la maternelle, il y a des cours de créole qui sont obligatoires, mais il n'y a pas des écoles, à ce que je sache, qui se font que en créole.
Il y a, c'est le cas dans le Pays Basque, on le voit à l'instant.
Oui, voilà, en Bretagne. J'ai entendu ça.
C'est un regret.
Oui, c'est un regret parce que c'est un regret. Mais après, la population ici ne parle que quasiment créole entre eux. Et après, bien sûr, l'administration, ils parlent tous français. Mais beaucoup de personnes ont du mal à parler le français. Ils parlent plus le créole que le français, surtout les anciens, comme on dit chez nous, les Gramounes.
P.O. Joajuria, c'est une condition sine qua non pour que cette langue ne meure pas, la vôtre, le basque, de l'apprendre à l'école. On ne peut pas faire comme à La Réunion avec Eric, où ce serait plutôt, j'allais dire, dans le domaine privé, où les écoles sont en français, mais on parle à la maison ou dans la rue en basque et en créole.
On a absolument besoin de l'école, hein. C'est ce que dit même la loi, hein. C'est l'article 1 du Code du patrimoine, hein, qui dit que le rôle de l'école est de transmettre ces langues-là. On a besoin d'avoir des locuteurs complets qui soient capables de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Donc on a besoin que les sciences soient également enseignées en basque, que la géographie soit également enseignée en basque. Sinon, si on maintient la langue uniquement dans le cadre familial, on a énormément de champs lexicaux qui ne sont pas appris, qui ne sont pas utilisés. Et donc, dès qu'on se retrouve dans des contextes particuliers où on a besoin d'un contexte spécifique qu'on n'a pas à la maison, la langue disparaît au profit du français ou au profit de l'anglais.
J'en profite.
Et donc, on a énormément de zones d'usage qui ne peuvent pas être transmises.
J'en profite parce qu'il nous reste quelques secondes. Vous pouvez nous la faire entendre, cette langue, Peyo, quelques mots de basque.
Naïba Zosue, Betty Ratin, Lidagorsak, Ushkaras. Berdugu, hizkuntza politika bat, berditugu gauzak aintzina hasi, eta gaur egun frantzian ez gira zentzortan abian.
Et tout ça veut dire quoi?
Non, actuellement, la politique linguistique menée par la France ne va pas dans le bon sens. On a des langues qui sont inscrites dans la Constitution, qui sont inscrites dans le Code du patrimoine, mais pas dans le Code de l'éducation. Donc là, on a besoin de pas en avant, on a besoin d'une protection. On a besoin de sortir de cette précarité pour ne pas que à chaque mesure, chaque changement, chaque réforme ou chaque décision administrative mette à bas tout ce que l'on a construit sur ces dernières années.
Et l'appel est donc lancé ce matin, version bilingue, pour que ça remonte jusqu'aux oreilles de Nicole Belloubet et de tout le gouvernement. Merci à vous, Peyo Joajuria, président des Chasca Fédération. Merci à Eric d'être intervenu depuis La Réunion. La défense des langues régionales. Vous poursuivez, bien sûr, si vous le souhaitez, au 32-16. Il est 8h20.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h22.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Julien Taxis.
Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
À quelques mois des Jeux Olympiques, c'est une petite bombe dans le milieu de la natation.
23 nageurs chinois ont été contrôlés positifs en 2021. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'a été suspendu.
Eh oui, c'est un véritable scandale révélé hier par le New York Times et la chaîne allemande ARD. Ces deux médias se sont procurés un rapport indiquant que 23 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimethyazine. L'agence mondiale antidopage, à l'époque, est mise au courant, mais le problème, c'est qu'on est en 2021, en plein Covid, et que les restrictions liées à la pandémie rendent l'enquête très difficile. Au final, l'AMA doit se ranger derrière la thèse plus ou moins entendable proposée par la Chine, à savoir une simple contamination via de la nourriture. Tout ce petit monde, les nageurs chinois suspectés, peuvent finalement tranquillement participer aux Jeux de Tokyo en 2021, avec à la clé 6 médailles en natation pour la Chine, dont 3 en or. Gilles Sézional était l'invité hier de l'Intégral Sport sur RMC, le président de la Fédération Française de Natation, qui se dit abasourdi par toutes ces révélations.
Ça jette effectivement le doute et il faudra qu'on ait des explications et on va les demander d'ailleurs. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pris une mesure conservatoire de suspension? Il y a intérêt pour l'ensemble de nos disciplines que toute la lumière soit faite et qu'ils prennent des mesures. Parce que c'est un énorme scandale.
Tu m'étonnes qu'il y a intérêt, que c'est un énorme scandale qui, d'ailleurs, Julien, n'est pas le premier autour de la natation chinoise.
Alors non, pas vraiment. On va faire d'ailleurs un petit retour dans le temps. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, où un certain Camille Lacour, qui finit cinquième de sa course du 100 mètres d'eau, pousse un vrai coup de gueule contre la natation chinoise déjà à l'époque.
Ça me déplaît d'être battu par un Chinois. Ça me dégoûte d'avoir des gens qui ont triché sur les podiums.
Vous avez de sérieux doutes, plus que des doutes sur ceux qui sont...
Sur celui du 200 crawl, là, Sun Yang, il puisse violer.
Ouais, celui c'est du 200 crawl qui pisse violé, c'est donc Sun Yang, star de la natation chinoise, triple champion olympique, mais qui purge depuis 4 ans une suspension pour avoir brisé, rien que ça, au marteau, un échantillon de sang lors d'un contrôle. Lui ne sera pas à Paris pour les Jeux, contrairement à d'autres nageurs chinois de premier plan qui font partie des 23 suspectés. Deux d'entre eux sont d'ailleurs des concurrents directs pour notre Léon Marchand national, Wang Shun sur le 200 mètres 4 nages et Qin Hei Wang sur le 200 mètres brasse. Léon Marchand, lui aussi, a réagi hier et a exprimé sa stupéfaction sur ses réseaux au moment de ses révélations. Ce qui est sûr, c'est qu'à 3 mois des Jeux, toute cette affaire jette un voile sur la natation chinoise, mais aussi sur la lutte antidopage. Il reste 3 mois pour rectifier le tir et j'ai envie de dire offrir finalement quand même quelques garanties aux nageurs, celle notamment de pouvoir concourir et nager à armes égales.
Mais on ne pourrait pas leur proposer là aux nageurs chinois de concourir dans le concours que vous nous
parliez. Oui, c'est ce que disait Camille Lacour. Oui, concours fait pour les
dopés, quoi. Bah oui, il paraît que ça
serait plus juste
maintenant. Ouais. Merci beaucoup, Julien Taxis. Votre story sport à retrouver sur rmc.fr. 8h25.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Peggy, nous avons un gagnant.
Ah, pour le kit d'équipement Bosch Car Service.
Exactement.
Et c'est qui?
C'est Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour Ludovic.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous?
Bien
ça
et vous?
Ça va Ludovic.
Ça va, vous sous êtes le soleil.
Dans le nord, sous le soleil?
Sous le soleil, entre deux petits nuages.
Ouais, c'est ça.
Ça se tient.
Bon, commercial dans l'outillage?
C'est ça,
toujours. Tu m'étonnes que ça te plaît, le kit d'équipement Bosch Car Service.
Ah, voilà.
Cette devissage 26 pièces.
C'est ce qui me manquait.
Pompe à air comprimé sans fil, aspirateur aux poussières.
Et tout ça d'une valeur de 500 euros. Hein.
Eh, quand même, c'est un beau cadeau.
Ouais,
hein.
C'est un super cadeau.
Eh ben, merci d'avoir joué avec nous, Ludovic.
Eh ben, grand merci à vous et puis à très bientôt, RMC.
À bientôt, merci de votre fidélité, Ludovic.
Au revoir.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Bosch Car Service, partenaire du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 2019.
Du Nord, nous allons partir en Charente-Maritime, les amis, après le journal de 8h30. Le Fort Bayard est menacé de disparition. La présidente du département est avec nous sur RMC. À tout de suite. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le choc d'une mère après l'agression de son fils de 15 ans. Nouvelle agression à Grande-Synthe dans le Nord. Les températures baissent, mais l'angoisse grimpe chez les arboriculteurs, inquiets face au risque de gel. Et puis le tacle de Luis Enrique à ses détracteurs. L'entraîneur parisien n'écoute pas les critiques avant le match contre Lyon ce soir.
Que se passe-t-il donc à Grande-Synthe dans le Nord? Une nouvelle agression sur un jeune.
Un ado de 15 ans roué de coups, retrouvé à moitié nu par un passant dans la nuit de vendredi à samedi. Sa mère l'a retrouvé ensuite. Elle est encore sous le choc.
Il est gonflé de partout. Il a la bouche qui est double volume. Il a des oreilles de boxeur. Il a des côtes cassées. Donc il souffre beaucoup parce que quand il respire, il a super mal. Il a du sang dans les yeux. Les yeux sont bleus. Il a des coups partout. Partout. Et le plus, c'est la mâchoire. En ce moment, j'ai beaucoup de vagues de menaces envers que ce soit mes enfants, même ma fille. Jusqu'à dire je vais aller violer ta fille alors qu'elle a que 12 ans. Moi, je vais plus travailler à cause de ça. J'ai envoyé un message au maire pour déménager parce que je suis plus en sécurité.
Une agression 5 jours après le meurtre de Philippe, ce jeune homme de 22 ans tabassé à mort. Dans cette affaire, deux jeunes de 15 et 14 ans ont été mis en examen, écroués. Et cette nouvelle victime dont on vient de parler, ce jeune homme roué de coups, c'est le cousin de l'un de ses suspects dans l'assassinat de Philippe. Deux affaires qui se télescopent, mais il n'est pas encore possible de conclure. Conclure de façon fiable sur le mobile des agresseurs selon le parquet. Vous retrouvez ce témoignage et toutes les informations sur rmc.fr. 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, c'est le montant de l'enveloppe votée en aide par les États-Unis hier soir. Ukraine, scande des élus de la Chambre des représentants après 6 mois de blocage, notamment côté républicain. Une aide vitale, se réjouit en tout cas le président ukrainien Volodymyr Zelensky, car les effectifs et les munitions manquent. Cela va permettre au pays de tenir sa ligne de défense, selon Ulrich Buna, expert en géopolitique.
Il faut bien comprendre qu'actuellement, l'Ukraine, sur la ligne de front, a deux problèmes. Elle a un problème d'effectifs, qui est un problème interne à l'Ukraine, et elle a un problème de manque de munitions, notamment d'artillerie et de munitions anti-aériennes pour protéger ses villes. Et donc, effectivement, ce package de 61 milliards de dollars, il va permettre de fournir assez rapidement aux Ukrainiens, notamment ces deux matériels, donc l'artillerie et la défense anti-aérienne, qui vont leur permettre de se protéger contre les offensives russes. Donc c'est vraiment fondamental pour eux.
Les États-Unis qui ont également voté une aide de 13 milliards de dollars pour Israël, afin notamment de l'aider à renforcer son bouclier antimissile, le Dôme de Fer. Des fonds aussi pour Gaza, 9 milliards de dollars sont prévus pour l'enclave palestinienne, ainsi que d'autres pays dans le besoin.
RMC 8h33, le froid est bien de retour en France.
Les températures 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison, ce week-end et en début de semaine, ce qui inquiète les agriculteurs et plus particulièrement les arboriculteurs qui craignent de perdre leur récolte à cause du gel. Il va donc falloir sortir les bougies anti-gel. Emmanuel Haz est arboriculteur dans le Lot-et-Garonne.
Il existe quelques moyens techniques à allumer des feux, soit entre les rangs d'arbres, soit dans le pourtour de la parcelle. C'est une technique très coûteuse. C'est des bougies qui doivent peser entre 3 et 5 kilos, quelque chose comme ça. Et on a un tarif de 10 ou 11 euros la bougie. L'opération vaut le coup, évidemment, si on a sauvé la récolte. Mais si on n'y est pas parvenu, ça vient un peu plus gréver le budget, puisque on est à plusieurs centaines de bougies à l'hectare, dans tous les cas. Donc plusieurs milliers d'euros à l'hectare. C'est un vrai coût significatif.
Allez, le sport, c'est le football, la Ligue 1 avec cette victoire 3-0 de Rennes hier face à Nantes.
Et de son côté, Lens a battu le dernier Clermont 1-0. La suite de cette 30e journée, ça commence à 13h avec Reims-Montpellier. 15h, Lille reçoit Strasbourg et Le Havre reçoit Metz. À 17h, il y aura Brest-Monaco, Toulouse-Marseille, c'est à 19h. Et en clôture, PSG-OL à 21h. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, connu pour son franc-parler, interrogé hier sur les critiques qu'il a pu recevoir tout au long de la saison, et ben il leur a répondu.
Depuis que je suis entraîneur, on m'a critiqué. Que ça continue. Les chiens aboient, la caravane passe.
Allez, ça c'est fait. Ça c'est envoyé. Et puis je vous propose maintenant de prendre l'air. Allez, un petit, on va s'apaiser. On va prendre un peu de hauteur. Direction Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où les rencontres internationales du cerf-volant viennent de commencer. Elles vont durer toute la semaine. Un rendez-vous qui rassemble de nombreux visiteurs. Un plaisir pour tous ces visiteurs et tous ces curieux.
On vient généralement tous les ans. On est complètement fans. On adore en fait. C'est majestueux, les couleurs sont magnifiques. Tous les ans, il y a de nouvelles choses qui sont proposées.
On a vu un cheval, les poissons bien sûr, un gros nounours.
C'est la première fois que je viens, mais on est comme des enfants, on reste comme des enfants. On s'émerveille de tout et de rien.
C'est vraiment très très beau.
On brave le froid, le vent, et c'est super beau. Ouais.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voir les cerfs-volants qui volent ensemble, le ballet des hommes et des femmes à terre qui tirent les cerfs-volants, c'est magnifique.
Des visiteurs au micro de Chloé Lagadou, l'événement rassemble quand même 700 000 visiteurs chaque année. C'est poétique.
Et bientôt 700 000 et une visiteuse.
Vous parlez de moi?
Ouais,
oui, ouais, ça me tente.
Ouais, ouais, bah ouais, je vois bien depuis ce matin. Hein. Vous avez la tête dans les cerfs-volants, Clara Gabillet. Allez, soyez toutes et tous les bienvenus. 8h36, nous sommes ensemble encore pour une heure. Et nous allons continuer de vous faire gagner nos vinyles. Vous écoutez ce titre, reconnaissez l'artiste. Voilà, c'est le principe du jeu qu'on a lancé hier à l'occasion du Disquaire Day. On poursuit ce matin parce que la discothèque d'RMC est mise aux enchères. On en a récupéré quelques-uns pour vous les offrir tout au long du week-end. Ce titre à reconnaître, l'artiste a donné...
Je peux donner un indice ?
Allez-y.
Un groupe ?
Oui.
Je peux donner le nom d'un membre ?
Si vous voulez.
Jim Morrison ?
Ah ouais.
Bon, j'arrête là.
À chaque fois, c'est trop facile. Bon, le premier ou la première au 32-16 ou sur l'appli RMC remportera ce vinyle. C'est un 45 tours qui date du 8 février 90. Il est entré dans la discothèque d'RMC le 90.
Quelle chance !
On en a un deuxième.
Ah.
Qui là est entré dans notre discothèque en 1975.
Ah ouais. Une belle année.
Une belle année. C'est pas le titre le plus connu de cette interprète.
Non, parce que On pourrait confondre.
Attention.
Ouais, mais l'interprète faisait partie d'un groupe.
Exactement. D'un
Ils
groupe.
Ils étaient quatre.
Ouais, quatre. Très connu dans les années 60-70.
Ouais, des Anglais.
Enfin... Ça a bien marché, ça continue de bien marcher.
Oh, vous croyez ?
Ouais, je crois. Ouais.
C'est un groupe connu ?
Ouais, on verra.
Très connu ?
Bon, vous reconnaissez ces deux titres. Allez-y, 32-16, l'appli RMC avec votre numéro de téléphone. Hein, ne l'oubliez pas. Gagnant-gagnante avant 9h.
À suivre dans la matinale week-end.
Le coup de main conso, Clara Gabillet, nettoyer, balayer, astiquer.
Oui, à moindre prix, on va essayer de nettoyer sa maison, pas trop cher.
C'est Zouk Machine, hein.
C'est Zouk Machine.
Bravo.
Ouais, mais il n'y a rien à gagner.
Non, il n'y a rien à gagner.
À part le coup de main conso dans 10 minutes. Avant cela, Fort Boyard.
C'est fini ? Ça va disparaître ?
Alors, l'émission, je ne sais pas. On va poser la question. Mais le fort en lui-même est menacé de disparition. C'est très sérieux. Cet emblème national est voué à la ruine si aucun travaux n'est entrepris. Un appel aux dons est même lancé. La présidente du département de Charente-Maritime, Sylvie Marseilly, est notre invitée dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault.
Bienvenue, merci d'avoir choisi RMC, il est 8h40.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Sylvie Marseilly, présidente du département de Charente-Maritime.
Bonjour à vous, merci d'être là.
Bonjour.
On va essayer de rassurer peut-être Peggy et tous ceux qui aiment ce jeu du samedi soir de l'été. Est-ce que le jeu télévisé est menacé, Sylvie Marseilly ?
Non, certainement pas. Il n'est pas menacé. Cependant, c'est l'édifice emblématique de la Charente-Maritime, le Fort Boyard, qui, si on n'intervient pas rapidement, risque, lui, d'être menacé.
Alors, c'est vous, hein, en tant que... Enfin, c'est le département qui est propriétaire du fort depuis 89. Il avait été cédé à l'époque pour 1 € symbolique au département par Jacques-Antoine, le producteur du jeu télévisé qui l'avait acheté l'année précédente pour lancer l'émission Fort Boyard. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est menacé exactement ?
Alors en fait, c'est la structure même du fort qui est menacée, qui subit les assauts de la mer inlassablement et les outrages du temps. Et en fait, sa configuration d'origine, telle qu'il a été réalisé, ce fort en 1866, eh bien, les systèmes de protection imaginés à l'époque n'existent plus parce qu'encore une fois, en fait, la mer est venue miner le fort et ses systèmes de protection de l'époque.
Il va falloir reconstruire certains ouvrages ?
Oui, notamment un éperon à l'avant de ce vaisseau de pierre et un havre d'accostage à l'arrière du fort. En fait, à l'origine, les architectes et les ingénieurs de l'époque avaient vraiment bien fait les choses, puisque en fait, ce fort, s'il est là aujourd'hui encore, c'est grâce à ces systèmes de protection contre la mer. Donc c'est un geste historique, mais vraiment historique pour les départements qu'il faut réaliser pour sauver notre fort qui, comme vous l'avez bien dit, en fait, est devenu un monument emblématique de la Charente-Maritime avec une notoriété nationale, voire internationale, grâce à l'émission le jeu Fort Boyard.
Bon, c'est vrai que c'est un vieux monsieur, hein, peut-être aussi vieux que le père Fouras, ce Fort Boyard, bâti entre 1803 et 1857. À l'époque, c'était du granit, du béton a déjà été mis en place pour remplacer certaines parties, mais avec l'aspect originel, on arrive à faire des choses formidables maintenant avec ces nouvelles technologies, y compris dans le domaine du BTP, si j'ose dire, Sylvie Marcilly. J'ai juste une question, parce que quand vous évoquez la houle, le réchauffement climatique, les conditions pour le Fort Boyard qui est donc au large de l'île de Léron, de l'île d'Aix, ça me fait penser aussi un tout petit peu plus bas au phare de Cordouan, qui est l'un des grands phares français connus pour être au large, en mer, qui subit les mêmes assauts des vagues. Est-ce que lui aussi est menacé ?
Tout à fait. Alors lui, non, n'est pas menacé. Ce phare de Cordouan, qui à la fois sur le département de la Charente-Maritime et le département de la Gironde, est bien plus ancien.
C'est l'estuaire, hein, c'est au niveau de Royan, le Verdon-sur-Mer.
Oui. De l'estuaire de la Gironde, le Fort Boyard, lui, est dans l'estuaire de la Charente et en fait, il participait au système défensif de l'arsenal de Rochefort. En fait, tout l'estuaire est jalonné de bâtiments, de monuments militaires qui visaient justement à protéger l'arsenal de Rochefort avec ses célèbres bateaux, comme l'Hermione, en fait, qui étaient construits à Rochefort. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour notre département. Le chantier sera spectaculaire, périlleux, car lui aussi soumis aux aléas climatiques.
Et bien sûr, il va falloir faire tout ça depuis la mer.
Alors en fait, les éléments seront préfabriqués à terre, puis transportés jusqu'au pied du fort. Donc ce sera assez périlleux. C'est un challenge, on va dire, un défi pour notre département, mais aussi pour les entreprises. Alors en fait, ce qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit, c'est que à l'époque de la construction du fort, évidemment, tous les moyens techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. Il n'en demeure pas moins que ça reste un chantier qui sera très très spectaculaire et encore
colossal. À partir de l'année prochaine, 2025, jusqu'à fin 2027, début 2028, qu'il va falloir financer. 44 oui. millions d'euros, c'est ça à trouver. Oui. Appel aux dons, donc n'importe qui peut vous aider. Comment on participe ?
Alors à partir de cet automne prochain, chacun d'entre nous, eh bien, pourra participer financièrement à la rénovation de ce fort. En fait, c'est un geste historique auquel chacun d'entre nous pourra participer. Et puis, en fait, vous savez, ce Fort Boyard, c'est une affaire de cœur et c'est aussi l'affaire de tous. Et nombreux sont les personnes attachées et qui ont envie aussi de visiter ce fort.
Résidents, touristes ou pas de Charente-Maritime, on est tous un petit peu attachés à Fort Boyard, comme au Mont-Saint-Michel, comme à la cathédrale Notre-Dame, peut-être pas dans la même intensité, évidemment, mais est-ce que France Télévisions, qui quand même produit le jeu associé à ce fort, va participer à la rénovation de manière financière ?
Alors, on va évidemment solliciter tout le monde. Ce qu'il faut bien aussi avoir en tête d'un point de vue de l'attractivité de ce bel édifice, sont 170 000 passagers, des croisiéristes en fait font le tour du fort chaque année. 170 000 passagers viennent pour admirer ce qui est colossal au milieu du Pertuis d'Antioche, ce monument qui, franchement, on est complètement transporté à la fois à travers le jeu et l'histoire. C'est un édifice fabuleux, encore une fois, qui est très très emblématique de la Charente-Maritime.
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne peut l'approcher qu'en bateau et faire le tour. À l'issue des travaux, vous promettez qu'on pourra y pénétrer, visiter le fort de l'intérieur.
Oui, c'est ma volonté. Vous faisiez un pendant avec le phare de Cordouan, donc il faut réserver bien à l'avance. Ça se mérite un petit peu, mais oui, mon objectif, c'est vraiment de réaliser le rêve de tout le monde,
ah oui,
et surtout des enfants, de pouvoir enfin visiter le fort. Alors, ce qui n'empêchera pas évidemment à l'émission de continuer ce tournage, hein, puisque les visites se feront en dehors de ces périodes de tournage, donc qui vont à peu près du mois d'avril.
Donc on ne croisera pas Félindra et ses tigres quand on viendra visiter Fort Boyard.
Non, mais peut-être quelques insectes qui...
Oui,
tout à fait, ça nous est déjà arrivé.
Merci beaucoup Sylvie Marseilly, la défense de ce Fort Boyard. J'en profite juste pour vous demander comment s'annonce l'été dans l'un des départements Charente-Maritime les plus touristiques de France. Tout va bien, main-d'œuvre, tout est prêt?
Oui, main-d'œuvre, tout est prêt. Le soleil rayonne là sur tout le département de la Charente, qui est toujours sur le podium des destinations préférées des Français.
Avec notamment l'île de Ré, et cette bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment y aller, désormais, à partir du 1er janvier 2025, un tarif basse saison à 4 euros. Entre quoi? Entre novembre et mars, hein, c'est bien 5, 15 novembre, 1er mars, 4 euros pour traverser le pont au lieu des 8 actuellement, hein.
Oui, et puis la navette gratuite Respirer qui permet d'économiser notre bilan carbone.
Merci beaucoup Sylvie Marseilly. Le département de Charente-Maritime à l'honneur, dont vous êtes la présidente ce matin sur RMC. On a mis à l'honneur toutes nos langues régionales et un département, c'est déjà pas mal pour un dimanche matin. Bon dimanche à vous. Il est 9h10.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, ça fait du bien. Hein. Ça, c'est un indice supplémentaire parce que c'est vrai que c'était un peu difficile tout à l'heure. On vous a diffusé un titre et il faut reconnaître l'artiste. C'est notre grand jeu de la foire au vinyle RMC depuis le début du week-end. Là, je pense que
vous l'avez
cet interprète.
Bien sûr.
Tout à l'heure, il chantait Bebop Lula, donc ça pouvait prêter à confusion. Mais le vinyle que nous avons à vous offrir ce matin de cet interprète est un vinyle Bebop Lula, parce qu'il a aussi chanté ça. Est-ce que tout va disparaître dans notre foire au vinyle? Réponse
tout
dans
à l'heure.
Quelques minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien? C'est avec Clara Gabillet.
Clara, allez, c'est dimanche, on fait le ménage. Vous allez nous donner des astuces pour nettoyer notre maison sans se ruiner.
Mais oui, il va falloir faire un peu de tri dans les placards, je vous préviens. Si vous êtes adepte de tous ces produits en tout genre, produits ménagers, je vous propose de devenir un peu plus minimaliste en s'équipant seulement de 3-4 produits essentiels à avoir chez soi.
Bon, à commencer par le vinaigre blanc.
Et oui, un incontournable, hein, c'est pratique, c'est pas cher. On trouve des bouteilles d'un litre pour moins d'un euro. Ça sert dans toutes les pièces de la maison. Ça lutte contre le calcaire. On peut s'en servir en le mélangeant à un peu d'eau pour créer un spray pour les vitres. Ça sert pour éliminer certaines bactéries. C'est super efficace. Ensuite, le bicarbonate de soude qui permet de blanchir, de dégraisser, d'éliminer les mauvaises odeurs. On trouve des sachets de 500 grammes pour 4 euros, parfois moins cher, et ça dure longtemps. Ensuite, il y a le savon noir qui vous servira de dégraissant pour le sol.
Tout ou ça,
pour
les surfaces. Déjà,
hein. Ah bah super, ouais. Vous êtes bon élève.
Moi,
toujours,
il
Mathieu.
Il est parfait.
Bon voilà, tout ça, c'est la base à avoir chez soi. Merwan Lebat donne des conseils sur Instagram et dans son livre « Nettoyer, ranger, organiser en une heure ». Et en plus de ces produits pratiques, c'est aussi très économique.
C'est beaucoup plus économique parce qu'on a le produit brut et non transformé. Le vinaigre blanc, les 5 litres, vous les avez à dos. Par rapport à un produit déjà tout fait qui est de 500 millilitres à 2 euros, la marge et les économies qu'on fait durant l'année, c'est énorme.
Et après ces essentiels, on peut aussi ajouter la pierre d'argile blanche, bien pratique contre la graisse incrustée.
Ah, ça, j'ai pas.
Ah, moi non plus. L'acide citrique. Et bien sûr des huiles essentielles on veut voilà soit ajouter au produit parce que ça sent quand même un peu fort le vinaigre blanc, soit aussi juste pour parfumer chez soi. On peut aussi se servir des produits alimentaires comme le citron. On peut frotter le citron sur la planche à découper.
Attendez, enfin moi il y a un moment je veux bien, mais s'il y a des produits ménagers qui existent, c'est parce que le citron c'est pas forcément efficace. Tout ça c'est efficace.
C'est efficace bien sûr. En tout cas c'est ce que nous explique Merwan Lebat. Il faut simplement se renseigner.
On peut avoir une maison totalement propre, sans produits chimiques. Ce sont des produits en fait qui ont déjà montré leur efficacité, des astuces de grand-mère. Je pense que c'est juste qu'il faut se renseigner un petit peu et utiliser le bon produit pour la tâche ménagère à effectuer.
Voilà, on peut associer ces produits entre eux, hein, par exemple le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude pour les canalisations. Une efficacité pour pas cher et meilleure pour la santé parce que c'est sans produits chimiques.
Ouais, et c'est vrai que moi j'ai détartré hier justement ma machine à café, j'ai mis du vinaigre blanc, j'ai mis de l'eau que j'ai fait bouillir et en 2 secondes c'était détartré.
Eh ben voilà, comme quoi les choses ne sont pas compliquées. Merci beaucoup Clara Gabillet, on retrouve tous vos conseils, le coup de main conso sur rmc.fr et en podcast sur l'appli RMC. 8h50
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Allez, un peu de musique. C'est vrai que vous avez été très nombreux quand on vous a passé ce titre tout à l'heure vers 8h30, tout de suite à nous dire c'est Elvis Presley,
mais pas du tout.
Il y avait un petit piège pour terminer notre foire au vinyle RMC. On vous avait prévenu, c'est un titre qu'on associe à Elvis Presley, mais c'est un autre interprète.
Et oui, parce que ce titre date de 1956, ça a été repris plein de fois. Il y a Jerry Lee Lewis qui l'a repris en 1970, Paul McCartney en 1991, mais là c'est la version de 75 et c'est de...
Ah, alors écoutez bien la voix. Eh bien, il y en a un qui a reconnu cette voix iconique, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Alors, c'est qui chante?
C'est John Lennon.
Eh ouais, oui, bravo,
bravo Stéphane.
Alors, vous savez qu'il y avait également Eddie Mitchell qui a fait une adaptation de cette chanson Bebop Lula avec les chaussettes noires. C'était en français, vous vous souvenez certainement.
Celle-là, moi, à la limite, je la connaissais peut-être même un peu mieux que celle de... Bah, celle d'Elvis Presley, quand même. Elvis Presley, tout le monde la connaît. Mais Eddie Mitchell, c'est vrai, Bebop Lula, vous avez raison, ma chère Peggy. Stéphane.
Oui.
Vous avez une platine?
Alors moi, non, mes parents, oui.
Ah, voilà.
Mais je suis en train de me constituer une petite bibliothèque de vinyle.
Génial.
Eh bien, nous, on s'en sépare. Ça tombe bien, Stéphane. Toute la discothèque d'RMC qui est mise aux enchères, encore pendant quelques semaines. J'en ai donc chippé pour vous les offrir ce week-end à l'occasion du Disquer Day. Le 33
45.
45, je sais jamais. Le petit, quoi.
Le petit.
Stéphane, le 45 tours de John Lennon, Bebop Lula, ça part chez vous.
Eh ben super, merci beaucoup en tout cas.
Eh ben on est très heureux de vous offrir ça, mon cher Stéphane. Nous avions un deuxième titre à reconnaître, les amis.
Facile.
Light My Fire, voilà pour le titre. Mais qui interprète ce titre? Eh bien, c'est Maxime qui a été le premier à reconnaître. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Bonjour.
Infirmier libéral, Maxime.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et alors, j'ai entendu ça tout à l'heure en pleine tournée.
Ouais, c'est ça. Bah là, j'attendais pour aller voir un patient et puis bah j'ai envoyé un message et bah c'est premier.
Vous avez bien fait. Et vous nous dites?
C'est les Doors.
Eh oui.
Eh, bravo.
Et le chanteur?
C'est Jim Morrison.
Bravo. Riders of the storm,
into this house we're born. Maxime, c'est pareil, c'est un 45 tours des Doors qui part chez vous, qui était entré dans la discothèque d'RMC le 8 février 1990. Vous étiez né?
Ah non, pas du tout.
Et, et vous aimez les vinyles?
Ah, j'adore ça depuis décembre, j'ai eu un cadeau de Noël, en fait, une platine, et depuis,
génial. Le regain d'amour des jeunes pour les vinyles. On est très heureux que ça parte chez vous. C'est collector, hein. Il y a le tampon RMC et tout, Maxime. Hein.
Ah, super.
Ne vous en séparez pas de celui-là. Hein.
Ah non, je vais le garder bien au chaud.
C'est cadeau, ça part chez vous. J'en suis ravi. Merci, Maxime.
Super. Est-ce que je peux faire juste un petit bonjour?
Allez-y.
Alors, juste un petit bonjour à mon pote Elliot, qui est aussi infirmier libéral, mais plus à côté de Dijon et qui travaille aussi actuellement.
Eh ben, on les embrasse tous, les infirmiers libéraux, merci. À travers vous. Merci, Maxime, et merci à vous tous d'avoir joué avec nous tout au long du week-end. J'ai adoré ce jeu.
On va le refaire. Hein.
Ah, vous voulez?
Bah, ce serait bien quand même. On en a plein des
vinyles. Envoler à nouveau?
Ouais, mais je vous couvrirai.
Je demande au patron.
Je vous couvrirai.
J'ai le droit d'aller en voler quelques-uns à nouveau. Merci encore. La foire au vinyle d'RMC reviendra peut-être sur demande de Peggy Broche. En attendant, ce sont les infos de 9h.
La matinale week-end.